Ici, d'ailleurs, jusqu'à 21h comme tous les vendredis soirs, des histoires de femmes et d'hommes, étrangers, immigrés, exilés, venus vivre en France. Des témoignages qui résonnent autrement avec l'actualité et qui nous éclairent sur certaines réalités de notre société. Ce soir, il sera question de la Palestine, de Gaza, d'enfermement, d'aliénation. Il sera question d'un voyage extraordinaire pour Perpignan, de paysages jusqu'alors inconnus, jamais vus. Ce soir, il sera question d'un coup de foudre pour la France.
D'ici, d'ailleurs, Zoé Varier, sur France Inter.
Bonsoir, Amir Hassan.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Amir Hassan, vous êtes né en 1990 dans un camp de réfugiés à Gaza. Vous avez grandi sans avoir conscience de votre enfermement. Vous ne saviez pas que la vie pouvait être autrement. Après le bac, vous choisissez par dépit et par hasard d'étudier le français. Vous ne pouviez pas imaginer que ce choix allait bouleverser le cours de votre vie. Vous aviez 20 ans quand vous êtes sorti de Gaza pour la première fois pour aller faire un stage de langue à Perpignan. Ce voyage vous a transformé à jamais. Amir Hassan, c'est votre parcours que nous allons évoquer ce soir, ensemble.
Allô ? Allô ? Kahlo ? Setti ? Setti, ya setti, shtaqtelik, ya setti, علي صوتك, صوتك بعيد جاي من الكرم جاي من التفاح صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون ايه وريحة الطيور يا ستي ما حدا ينطرني لتأجلوا العرس يمكن طول وشو هم الفستان قولي للعروس انت الزينة وانت العرس وسلمي لي كتير كتير وما بقى بكي
Amir Hassan, c'est la grande Férouz qu'on est en train d'entendre. Et c'est elle qui a bercé votre enfance à Gaza.
Oui.
Alors pourquoi ? Pourquoi elle ?
J'ai grandi avec Férouz parce que en Palestine et dans plusieurs pays arabes, on a dans toutes les radios le matin, de 6h du matin à 7h du matin, une heure du Coran. Et de 7h du matin à 8h du matin, on a Férouz.
Donc que Férouz ?
Que Férouz. Donc c'était le matin. Pour moi, Férouz, c'est tous les jours. Le matin, c'est la famille, c'est l'odeur du café turc que ma mère préparait pour ma grand-mère.
C'est ça, Férouz.
C'est ça.
Le soleil.
Férouz, c'est la patrie, c'est le sang de la terre, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de nostalgie aussi.
Ouais. Là, vous avez de la nostalgie en l'écoutant.
Bien sûr. C'est une voix qui me meut à chaque fois.
Ouais. Moi aussi, beaucoup. Amir Hassan, vous êtes né donc en 1990 dans un camp de réfugiés à Gaza. Votre famille venait d'où ?
Ma grand-mère venait de Jaffa, qui est aujourd'hui Tel Aviv. Donc, et mon grand-père venait d'un petit village en Palestine historique, qui est aujourd'hui Israël. Donc les deux familles sont arrivées à Gaza en 48, avec la guerre.
Donc juste après la création de l'État d'Israël.
Et ma grand-mère était donc un enfant, elle est montée dans un camion avec toute sa famille, avec des pâtisseries, et elle chantait, elle dansait tout au long du trajet. Parce qu'on leur a dit qu'on sortait, qu'on faisait une sortie familiale. Et il s'est retrouvé à Gaza et il pensait qu'il allait toujours retourner. Ça dure aujourd'hui 65 ans, mais elle a gardé toujours ce rêve de retourner chez elle.
Elle en parlait tout le temps ?
Tout le temps. Elle disait toujours « je suis de Jaffa ». Elle tenait à cette identité. Elle ne m'a parlé que de Jaffa.
Et quand on voit ce que c'est que Jaffa aujourd'hui, hein, c'est à la frontière de Tel Aviv. Ouais. C'est devenu une des banlieues de Tel Aviv,
oui.
Un peu chic,
oui.
À la mode, branchée. C'est ça qui est devenu Jaffa aujourd'hui.
Elle était très fière de cette ville parce que c'était la ville la plus développée, la plus technologique, moderne de la Palestine. Elle a eu du mal à s'intégrer à Gaza.
Ça veut dire que vous, Amir Hassan, vous avez grandi aussi dans cette idée du retour? C'est-à-dire que vous avez toujours entendu cette grand-mère et vos parents parler d'un retour possible?
Ils ne parlent que de ça. Ils ont gardé la clé, comme toutes les familles réfugiées, de leur maison.
Donc il y avait la clé accrochée
toujours,
au mur?
Oui, toujours. Et ils disaient qu'au Gaza, ce n'était pas notre ville. Hein, que nous, on est de Jaffa et qu'on va revenir à Jaffa. Et mon père disait toujours que nous, on était paysans d'un petit village, qu'on va revenir.
Et donc, vous avez grandi avec ces histoires-là?
J'ai grandi avec les histoires. Donc, toute ma vie est faite d'histoires.
De ces histoires de réfugiés. Et vous aussi, pendant longtemps, vous avez pensé que votre place était ailleurs que dans ce camp de réfugiés de Gaza?
Le camp de réfugiés, je suis né dans un camp de réfugiés. Nous, on ne sortait pas. On vivait entre nous, les réfugiés, dans des maisons, de ces débuts dans ville, sans infrastructure.
Ça veut dire quoi? Pas d'eau, pas d'électricité, pas
tout à l'égout? On a l'eau, l'électricité, mais pas tous les jours. Mais il n'y a pas d'infrastructure. Donc, c'est vraiment un lieu assez dégradé. Il n'y a que des gens misérables. Hein. C'est la misère, c'est les réfugiés qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de terre, qui n'ont pas de travail. Donc,
vous alliez à l'école?
J'allais à l'école, mais pas à l'école publique, parce que les réfugiés, ils n'ont pas le droit à l'école publique. Ils vont à l'école des Nations Unies, mise en place par l'ONU à Gaza. Donc nous, on était pris en charge par l'ONU pour l'école, et ainsi pour la santé. Nous avions un numéro de sécurité sociale délivré par l'ONU. Nous avions un uniforme scolaire différent que les autres enfants. Hein. Nous, on était en bleu. Les enfants, les citoyens qu'on appelle les citoyens, parce que nous sommes les réfugiés, ils étaient en vert.
Les citoyens de Gaza.
Oui, et nous, on était en bleu. Nous, on avait donc une vie très différente.
Et ça se mélangeait? Les enfants se mélangeaient entre
eux? Non, parce qu'on se mélange, on ne va pas à la même école, on ne se voit pas. Les citoyens, ils viennent pas dans les camps et nous, on ne va pas dans la ville. Hein.
Pourtant, on m'a dit qu'à Gaza, on ne voyait pas la différence aujourd'hui entre ce qui est d'un camp de réfugiés et ce qui est la
c'est
ville
vrai.
De Gaza.
Moi,
mais pourtant, vous en tant que réfugié, vous saviez où était la frontière et les autres aussi le savaient.
Tout
et c'est une frontière étanche, c'est-à-dire ça ne se mélange pas.
C'est une rue. Oui, c'est une rue, vous traversez, vous êtes dans le camp. Ça se voit que vous êtes dans le camp parce que vous voyez tout de suite que le
aujourd'hui
paysage
encore.
Change. Oui, moi je le sens. Il y a une odeur, il y a quelque chose, les gens sont différents. On voit ça sur le visage des gens.
Est-ce que ça veut dire que vous avez eu une enfance à part, que vous vous sentiez différent?
Oui. En fait, je ne savais pas qu'il y avait des citoyens et qu'il y avait une autre partie de Gaza qui existait. Je pensais que tout le monde vivait parce qu'on ne sortait pas. L'école était dans le camp, le travail était dans le camp. Je sortais jamais.
Jamais?
Non, de l'école à la maison, de la maison à l'école.
Et l'école, elle était à combien de rues?
Juste à côté, on allait à pied. Et tous les enfants vont tout seuls à l'école. C'est un camp fermé, donc il n'y a aucun danger, rien.
Aucun contact avec l'extérieur, c'est ça que vous êtes en train de me dire?
Non.
Rien?
Rien.
Et ce camp, il était grand? Il y avait combien de personnes?
Ah, il est grand aujourd'hui. Il y a peut-être 60 000 personnes qui y vivent.
Donc c'est une ville?
Ah, c'est une ville, oui. Mais les gens vivent. Vous savez, il n'y a pas de rue. C'est ça, un camp. Il n'y a que des ruelles. Et je me disais toujours, mais comment les gens font quand ils achètent un frigo? Comment ils le font entrer? Parce qu'il n'y a que des ruelles et on est obligé de passer par le côté quand on ne peut pas entrer
de face
dans les ruelles. Donc, vous vivez avec les autres. Vous êtes chez vous, mais vous entendez les voisins, leur télé, vous savez ce qu'ils mangent. Donc, tout le monde sait tout sur les autres. Hein.
Donc c'était ça, votre enfance?
C'était ça, oui. C'était quand même, aujourd'hui, parce que j'ai vécu autre chose, je sais que c'était pas facile d'être un enfant réfugié, parce qu'on n'a pas le même avenir après.
Amir Hassan, de votre enfance dans ce camp de réfugiés à Gaza, il vous reste plusieurs images fortes, mais une particulièrement.
Yasser Arafat, toujours encadré et protégé par des dizaines de gardes du corps, a été à nouveau acclamé ce matin dans les rues de Gaza au troisième jour de son retour historique en Palestine après 27 ans d'exil.
Est-ce que vous réalisez pleinement que vous êtes en Palestine?
Oui. Oui, je le sens. Je le sens bien avec mon cœur, avec ma conscience, avec mon esprit.
Et quelle a été votre première impression en arrivant?
J'ai prié, j'ai embrassé la terre. N'oublions pas, c'est la terre sainte. C'est la terre sainte. C'est la Palestine.
Amir Hassan, vous l'avez reconnu, c'est la voix de Yasser Arafat qu'on entendait. C'était en juillet 1994, après les accords d'Oslo. Arafat était devenu le premier président de l'autorité palestinienne et il avait décidé de prendre ses quartiers à Gaza. Vous, en 94, Amir, vous n'aviez que 4 ans et oui. Pourtant vous vous souvenez de ça.
Oui. Pourquoi ? C'est un moment historique parce que toutes les familles étaient sorties dans la rue, se mettant sur le bord de la route où Arafat allait passer. On a passé notre journée dans la rue et j'étais avec ma grand-mère, et quand il est passé, donc on le voyait, il y avait un convoi énorme. Et ma grand-mère lui a fait de la poésie et l'a salué aussi. Donc c'était un moment historique parce que tout le monde disait qu'Arafat a réagi par rapport à la poésie de ma grand-mère.
Pourquoi votre grand-mère avait inventé une poésie pour Arafat,
pour lui dire bienvenue. Oui, pour lui dire bienvenue dans cette terre. Voilà, donc,
et il lui avait répondu ?
Il l'a salué.
Ah, magnifique ! D'ailleurs, on est toujours avec vous, Amir Hassan, jusqu'à 21h. Amir, est-ce que vous pourriez me faire comprendre ce que c'était que cette enfance à Gaza ? Est-ce que vous pouvez... C'était quoi votre vie ? Vous alliez à la plage ? Qu'est-ce que c'était ?
Mon père était chauffeur d'ambulance dans une ville où il y a tous les jours des morts. Donc on ne le voyait pas beaucoup. Et quand il rentrait, il était toujours en colère. C'est sa nature, il est toujours en colère. Ma mère qui est institutrice, qui travaille, donc ma grand-mère qui vivait à la maison, elle s'occupait de nous. On allait à l'école et on rentrait à la maison, on faisait les devoirs, on regardait la télé parfois, quand la télé est arrivée. Et voilà, le lendemain, on reprenait. C'était une vie très monotone, et sans plus.
Sans plus. Quels étaient vos plaisirs ? Les plaisirs, c'était quoi ?
C'était quand les gens venaient nous voir, parce que là-bas, c'est ça leur culture. Les gens se rendent visite tout le temps. Tous les jours, il y a des gens qui viennent à la maison et après, vous allez chez les gens viennent chez vous. Il y a toujours quelque chose, un mariage, une naissance.
C'est ça. Mais pas de jeu, pas de sortie, rien. C'est ça que je veux essayer de comprendre.
Non.
Rien.
L'armée était dans le camp, donc on pouvait pas... Un jour, je suis sorti de la maison, et quelqu'un m'a ramené en disant que l'armée, si vous laissez vos enfants dans la rue, l'armée peut voilà, les prendre ou les arrêter. Parce que c'était les enfants qui jetaient des cailloux sur l'armée. Donc c'est pour ça qu'on sortait pas, en fait. C'était dangereux pour nous de sortir.
Et est-ce que vous aviez conscience de cet enfermement ou pas du tout?
Non, parce qu'on est né avec l'armée. L'armée fonçait toujours la maison, la porte de notre maison. Et je me rappelle un jour où mon père n'était pas à la maison, donc ils ont foncé la porte et l'armée est entrée. Et le chef de l'armée m'a serré la main. Et comme moi je comprends pas, j'ai pas peur, alors que ma mère avait très peur et ma sœur, donc j'ai serré la main et il m'a dit « tu es très courageux ». Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on se rendait pas compte qu'on était occupé, que l'armée, c'était quelque chose qui menaçait les gens. Parce qu'on était enfant, on comprenait pas.
Et ni l'enfermement, c'est pour ça.
Ah non, non.
L'enfermement non plus, vous n'en aviez pas conscience.
Même on était très pauvres, mais on l'a jamais su parce que personne nous a dit vous êtes pauvres. Tout le monde était pauvre dans le camp.
Voilà, et personne ne sortait, donc tout le monde était comme vous.
On s'habille tous de la même manière, les vêtements donnés par l'ONU, on mange la même chose parce que l'ONU nous donne tous les 3 mois des sachets de riz, des pâtes, du farine. Donc on était tous pareils, donc il n'y avait pas.
Tout le monde avait la vie de la même couleur, la même vie grise.
Et tout le monde a la même histoire, tout le monde vient de Jaffa dans ce camp-là. Donc on avait tous la même histoire, la même vie, voilà.
Rien à dire, rien à dire de cette vie, si ce n'est l'ennui.
Oui.
Amir Hassan, votre vie va basculer en l'an 2000.
Actuel chef de file du Likoud, le principal parti de droite israélien, Ariel Sharon a depuis toujours le goût prononcé des actions des camps. En décidant ce matin d'aller visiter l'esplanade des mosquées, il savait qu'il susciterait une forte réaction palestinienne.
Monsieur Sharon est un provocateur. Al-Aqsa est un lieu musulman, Al-Aqsa est un territoire palestinien.
En quelques secondes, les pierres et les coups ont remplacé les mots. Transformée en champ de bataille, l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam, est actuellement revendiquée par les négociateurs palestiniens comme partie intégrante de leur future capitale. Pour la première fois aujourd'hui, Ehud Barak avait admis la possibilité de 2 capitales côte à côte. La simple présence d'Ariel Sharon, radicalement hostile à toute idée de concession, a donc suffi à mettre le feu aux poudres. La visite d'Ariel Sharon se voulait, selon ses propres dires, être un message de paix. Paradoxalement, il a laissé derrière lui plusieurs dizaines de blessés de part et d'autre.
Amir Hassan, en l'an 2000, vous aviez tout juste 10 ans.
Oui.
Et ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées, en fait, c'est ça qui va déclencher la deuxième intifada. Mm. Et là, pour la première fois de votre vie, vous avez peur.
J'ai peur parce que j'habite dans la rue qui mène à l'hôpital. Et tout d'un coup, tous les jours, je vois que des cortèges de morts, hein. On voit les cadavres. Et je me rappelle toujours qu'il y avait un enfant mort, et ça m'a toujours traumatisé. J'ai eu toujours peur après, en voyant un enfant mort. Et là, on comprend pas, parce que il y a des affrontements sur les zones frontalières et les enfants. Donc moi, je vais à l'école. Le lendemain, la moitié de la classe n'est pas là parce que les enfants étaient sur les frontières en train de jeter des cailloux sur les soldats. Ils se faisaient tuer. Et mon père m'a dit, je me rappelle de ses menaces, si tu vas là-bas, je te casserai les pieds. C'est ce qui m'a empêché d'aller là-bas et de voir ce que c'est un soldat.
Vous aviez envie d'y aller?
J'avais envie de voir. Les chars, les soldats, parce que les soldats sont partis en 94. Et là, en 2000, j'ai 10 ans, je comprends un peu, je suis conscient. Je veux voir ce que c'est l'armée, ce que c'est la violence. Oui.
Ça vous intéresse?
Ça m'intéressait de sortir de l'école.
Ouais. Mais vous aviez envie d'aller jeter des pierres, vous aussi, ou pas?
Non, je voulais juste voir ce que c'est. C'est ces scènes de guerre qui se passent à côté. On voit juste les morts, mais on ne voit pas la guerre. C'est ça ce qui était bizarre.
C'est ça, c'est qu'à partir de l'an 2000 et de cette deuxième intifada, c'est la mort qui arrive dans votre vie.
C'est la mort, et pendant de 2000, peut-être à 2009, tous les jours, on n'avait que le journal télévisé, en boucle, à la télé. Donc ma grand-mère ne regardait que de ça, mon père ne regardait que de ça. Donc on n'avait que le journal télévisé, les morts, la violence, les martyrs, les blessés, c'était ça notre vie.
C'était ça, et en même temps, c'était d'une grande banalité, non? C'est-à-dire la mort devenait banale, la mort et la vie mélangées tout le temps.
J'ai eu peur la première fois quand Israël a bombardé la maison de Yasser Arafat en 2000, au mois de septembre à Gaza, parce que c'est la première fois où on entend les bombes. Avant, on ne connaissait pas les bombes à Gaza. Donc là, on était descendu dans la cave de notre tour, parce qu'on habite dans un appartement. Et après, comme les bombardements ont poursuivi, après les gens ne descendent plus dans les caves. À Gaza, il n'y a pas d'abri. Nous, c'était exceptionnel parce qu'on habite dans une tour. Et les bombardements, c'est devenu, 3 mois après, c'est devenu une habitude. Et donc, la vie continuait normalement.
C'est ça. Donc, en fait, vous avez commencé à avoir peur. Vous avez vu la mort en face. Et puis, vous vous êtes habitué à vivre avec la mort.
Quand on est dans une ville où il y a toujours des bombes, on pense toujours que la bombe va tomber sur le voisin et pas sur nous. J'ai toujours pensé ça, que moi je ne vais pas être touché, jamais. Donc j'étais un peu rassuré, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu le sentiment que je n'étais pas concerné. Donc j'allais à l'école, normal, et je rentrais à la maison, alors qu'on voyait des bombes tomber à côté, mais toujours, non, ce n'est pas moi.
Ce n'est pas vous, mais sauf que quand on a bombardé la maison d'Yasser Arafat, vous habitiez juste à côté.
Oui.
Et là, c'était vraiment tout près, non ?
C'était tout près, mais
après... Mais c'était pas vous.
Oui. Peut-être il fallait avoir cette idée pour continuer la vie. Hein. Parce que si vous avez peur de la mort là-bas, vous pouvez rien faire.
Et de toute
c'est
façon...
tous les jours, les bombes. Moi, quand j'arrivais toujours en retard à la fac, parce qu'une voiture a été bombardée sur la route, donc la route est bouchée... donc voilà, et après un jour à la fac on nous a dit écoutez, les bombardements ce n'est plus un prétexte pour arriver en retard, donc la mort devient une banalité,
ouais.
Parce que sinon tout le monde va dire on a été bombardé à côté. c'est vrai, les étudiants après ils en profitent.
Le drapeau vert flotte ce soir sur les territoires palestiniens. Vert, c'est la couleur des islamistes du Hamas. Tout le monde s'attendait à leur percée aux élections, mais personne n'avait prévu l'ampleur de leur triomphe. C'est une page qui se tourne au Proche-Orient.
Les sympathisants du Hamas sont euphoriques, un peu trop d'ailleurs. Après les jets de pierre, les coups de feu partent. Sans doute la police palestinienne qui tente de remettre un peu d'ordre, c'est le premier incident sérieux. Dans l'après-midi, l'ambiance était pourtant bon enfant dans le centre-ville. Slogan à la gloire du Hamas, danse. La rue aux vainqueurs, les supporters du Hamas réalisaient. Les Palestiniennes aussi ont célébré la victoire à leur façon et de leur côté.
D'ici, d'ailleurs... Zoé Varier sur France Inter.
Amir Hassan, votre vie basculera encore une fois après la victoire du Hamas aux élections législatives en juin 2006 et sa prise de contrôle de Gaza un an et demi plus tard. Parce qu'en 2007, Israël et l'Égypte imposent à Gaza un blocus. En 2007, vous avez 17 ans, donc vous êtes tout à fait conscient de ce qui est en train de se passer.
Oui.
Comment ça se... Vous rappelez du début du blocus ? Vous avez des souvenirs ?
Je me rappelle du bombardement de la centrale d'électricité à Gaza, qui produisait 65% d'électricité pour la ville. Et pendant 3 mois, la ville était plongée dans le noir absolu.
Et vous étiez à la fac, vous ne
faisiez
plus rien.
J'étais encore au lycée.
Ouais.
Et là c'était difficile de vivre sans électricité, parce que quand on n'a pas l'électricité, on n'a ni les transports, ni l'eau, ni l'éclairage, on n'a rien, les usines ont fermé. Ça a basculé d'un coup. En 3 mois, la ville est devenue très pauvre.
Et ça veut dire que vous restiez à la maison, vous vous éclairiez avec des bougies, vous ne bougiez plus ?
C'était les bougies, et les bougies, ça coûtait une fortune, parce que
les
commerçants, ils en profitaient. Et pour étudier, donc, on allait parfois dans la rue sous l'éclairage public d'un autre quartier, parce que l'électricité est distribuée d'un quartier à un autre, donc 3 heures à droite, 3 heures à gauche.
Ah, c'est ça, vous alliez dans les quartiers où il y avait de l'électricité.
Quand c'est possible, mais on a vécu des années... sur les bougies. Hein.
Mais ça veut dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous alliez dans les quartiers avec vos devoirs, vous mettre sous les réverbères qui marchaient pour pouvoir faire vos devoirs pour l'école.
Oui.
C'est comme ça que vous avez étudié et préparé votre baccalauréat.
Oui, tout à fait.
Dans ces conditions-là.
Oui.
Vous ne vous êtes pas arrêté.
Disons, j'ai toujours eu plus peur de l'échec scolaire que de l'occupation israélienne, parce que là-bas, c'est une honte pour la famille. C'est donc, moi, je pense que j'ai réussi mon bac parce que j'avais peur de mon père, de ce que les gens vont dire. Là-bas, vous êtes condamné à réussir, parce que si vous n'avez pas votre diplôme, vous n'avez rien. C'est une ville où il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a rien. Si vous n'avez pas un diplôme universitaire, vous ne pouvez jamais trouver un travail.
Donc ça veut dire que quelles que soient les conditions, il fallait continuer.
Il fallait continuer. Je me rappelle quand je passais mon bac, mon père m'a dit « Tu dois avoir plus que 70, c'est l'excellence chez nous. » Donc je n'avais pas le choix. Je l'ai fait par peur.
Et c'est ce qui vous est arrivé. Vous avez eu votre bac avec une mention excellente.
Oui, et quand je l'ai eu, mon père n'était pas content. Chez nous, on annonce le résultat à la radio. Donc, on a annoncé mon nom avec le résultat à la radio. Et mon père, il m'a dit, tu aurais dû faire meilleur, plus.
Ouais.
Et ça m'a gâché la joie de la réussite. Hein, parce qu'il était toujours... il savait faire, mon père.
Je voulais quand même qu'on dise deux mots sur le blocus de Gaza. Parce qu'il n'y avait plus rien qui rentrait. Plus de viande fraîche, plus de médicaments. Qu'on ait une idée, il y a des choses folles. Pas de chocolat, pas de bonbons pour les enfants. Pas de filets de pêche, pas d'instruments de musique. Quand on lit la liste des produits interdits pendant le blocus, c'est ubuesque.
60% des produits sont interdits. Donc, il n'y a que 40 qui entrent. Ce qui entre, c'est le riz, la farine, les éléments de base qui aident les gens à survivre. Mais tout ce qui est considéré comme plaisir par Israël sera interdit dans Gaza.
Donc, bonbons, chocolat.
On ne fait que survivre. Le chocolat, on ne le voyait plus. Mais il y a beaucoup de choses. Le lait n'existait plus. Beaucoup de choses. On avait que des... Donc, on mangeait toujours la même chose. Les pâtes, le riz.
En conserve, du cornet de bœuf, des trucs comme ça, non?
Ah, même ça. La viande, non. La viande, c'est un luxe énorme là-bas.
Et la pêche impossible parce que la mer est trop polluée.
Parce qu'on tire sur les pêcheurs. Moi, peut-être j'ai mangé quelques fois juste du poisson à Gaza. Ça coûte une fortune.
Donc vous ne mangez pas de poisson alors que vous viviez au bord de la mer.
Oui, parce que ça coûte une fortune. C'est parce qu'il n'y a pas de poisson. Ils n'ont que 3000 marins pour pêcher. Donc s'ils sortent avec quelques kilos de sardines, ils vont les vendre à un prix très élevé. Donc nous, on n'avait pas les moyens d'acheter le poisson.
Ça veut dire que vous ne mangez que du riz et des pâtes.
Du riz, des pâtes.
Et donc vous avez quand même eu, dans ces conditions-là, votre bac avec une mention excellente, alors que c'était aussi le début de l'opération Plomb Durci. Et après le bac, alors que vous vouliez être journaliste, il n'y a plus de place à la faculté et vous choisissez d'étudier le français, un peu par dépit.
Oui.
Vous le faites contre l'avis de votre famille qui pense que le français à Gaza est une langue morte. Mais vous n'imaginiez pas qu'un an plus tard, vous partiriez en stage pour 3 semaines à Perpignan pour parfaire votre apprentissage.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos pères déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde, mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil.
je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Amir, c'est vous qui avez choisi Barbara. Pourquoi cette chanson-là?
Parce que pour moi, c'est la voix de la France.
Barbara?
Oui.
Et vous l'écoutiez
j'adore
à Gaza?
J'adore cette époque que je n'ai pas vécue, mais pour moi, ça me permet de voyager.
Donc vous l'écoutiez à Gaza quand oui. vous appreniez le français?
J'ai appris le français avec les chansons et les films. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de livres, il n'y a pas de français à Gaza.
Non.
Donc on ne pouvait jamais pratiquer le français. Donc il fallait aller sur Internet chercher des documents sonores tout le temps.
Et donc, vous pratiquiez peu le français et vous vous retrouvez à partir à Perpignan. Vous avez tout juste 20 ans pour 3 semaines en stage et c'est la première fois que vous allez sortir de Gaza. Mais est-ce qu'au moins vous étiez sûr que vous pouviez sortir?
Ah non, non. Mais quand ils ont dit qu'il y avait une bourse, qu'il fallait s'inscrire, je ne voulais pas le faire parce que j'étais sûr que personne ne sortira de Gaza. Mais on m'a dit, il faut le faire pour montrer que tu étais intéressé. Donc je l'ai fait par hasard et j'ai été sélectionné. Et 2 jours avant, ils nous ont donné le visa. Ils nous ont dit, vous allez au passage de Rafah, vous tentez votre chance.
Donc le Rafah, c'est le passage avec l'Égypte.
Avec l'Égypte. On ne savait rien du tout comment ça se passait. Donc on se présente au passage.
Mais vous aviez peur, non? Vous étiez inquiet?
Disons, j'avais rien à perdre.
Donc, oui, tout à gagner plutôt.
Il fallait quand même tenter cette chance. C'est la première fois que je vais être libre, peut-être, pour 3 semaines.
Oui.
Je vais voir d'autres gens. Je vais voir des têtes différentes. Parce qu'à Gaza, on ne voit que les Gazaouis.
Moi, j'y mets.
C'est une vie monotone. Donc, on va voir autre chose. On arrive au passage. Donc, on reste toute la journée au passage.
À attendre, on vous fait mariner.
Et après, on nous met dans un bus et on traverse. Donc, ça y est, on entre en Égypte avec l'armée, c'est un bus qui traverse le désert du Sinaï qui a mis 8 heures pour arriver à l'aéroport du Caire. Mais ce qui m'a marqué, c'est que quand j'ai traversé les frontières de Gaza, le son des drones, des avions d'observation a cessé d'un coup. Et moi, j'ai vécu toute ma vie, pendant 20 ans, avec un son qui fait zzzz, toute ma vie.
Ça, c'est
et
les
tout
drones.
D'un coup, ça s'est arrêté, ça m'a fait peur. J'ai senti un vide, le silence, le vide d'un coup comme ça. Après, c'est la première fois que je vois un désert, que je vois des voitures avec des plaques égyptiennes, que je vois des Égyptiens, que je vois des gens parler avec un autre accent, que je vois une armée, l'armée égyptienne, que je vois un bâtiment différent, parce qu'à Gaza, la majorité des bâtiments sont gris, on construit de la même manière. Je me suis dit, oh, mais où est-ce que je suis là? On a traversé 5 minutes, on traverse du côté palestinien au côté égyptien. Tout change, le ciel change, la terre change, les gens changent. Et là, je me pose une question qui m'est restée pendant des années. À quoi pensent les gens quand il n'y a pas de guerre? C'est-à-dire tous ces gens que je vois. Comment ils vivent?
C'est-à-dire moi, par exemple.
À quoi ils pensent? C'est quoi leur vie quand il n'y a pas la guerre? Ces Égyptiens. Et je me suis posé la question tout au long du chemin. Mais comment on peut vivre s'il n'y a pas... Qu'est-ce qu'ils regardent à la télé?
Comment c'est la vie quand il n'y a pas la guerre, en fait?
Oui.
C'est comment la vie?
Je me suis dit, on doit bien s'ennuyer. On ne doit pas avoir d'orientation parce qu'il n'y a pas la mort. Comment on vit? Comment on choisit ses priorités quand il n'y a pas la mort? Parce qu'à Gaza, on cohabite avec la mort. Tous les jours, tu sais que tu vas mourir le soir. Donc, tu vis tous les jours à côté de la mort. Donc, nous, on traverse le désert du Sénat et on arrive à l'aéroport. J'ai jamais vu un avion civil dans toute ma vie. J'ai jamais vu un grand bâtiment. J'ai jamais vu des autoroutes. J'ai jamais vu des bus, des chars. À chaque fois que je voyais un bâtiment éclairé, je disais, ça, c'est l'aéroport. On me disait, non, mais tu sais, en Égypte, il n'y a pas que les bâtiments éclairés qui sont des aéroports.
Il y a d'autres bâtiments.
À Gaza, en Égypte, il y a des usines. Et on arrive à l'aéroport et à 2h du matin. C'est l'heure de notre avion. Et je dis à la police, oui, c'est très bien. Donc, il est 2h du matin, c'est notre heure de décalage. Et il me dit, ah, voici l'avion. Et l'avion était en train de
décoller.
Je dis, c'est très bien, donc on arrive à l'heure. Il m'a dit, ah non, 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 il fallait arriver 2 heures à l'avance. Je dis, mais pourquoi? Il est là, l'avion, il ne peut pas s'arrêter. Il a dit, mais il est fou.
Il est bête, quoi. Il est un peu idiot, ouais. Il a dû se dire.
Et il nous a regardé, il a compris qu'on venait d'une autre planète.
De Gaza.
Qu'on ne savait pas qu'on ne monte pas comme ça dans l'avion, on ne peut pas arrêter l'avion sur les pistes. Alors,
et ça, c'est un peu à l'image de tout votre voyage, ça va être ça.
On a raté notre avion.
Voilà.
On s'est dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Est-ce qu'on va rentrer à Gaza? Est-ce qu'on va être bloqué en Égypte? Est-ce que la France, c'est fini? Et on nous a dit qu'on pouvait payer prendre un autre avion. Et ça aussi, on croyait pas. J'ai dit, ah bon, on peut prendre un autre avion comme ça? Parce que pour moi, c'était la France qui avait réservé un avion, qui a fait des démarches. J'ai dit, bah oui, vous payez 100 euros, vous prenez l'avion suivant. Et je croyais pas, sincèrement. Et le lendemain, on nous a mis dans l'avion. Et là,
vous êtes arrivé. Alors là, l'avion.
Pendant 5 heures, on réalise pas, on est dans l'air. Et les deux camarades qui étaient avec moi, ils dormaient. Et moi, je peux pas dormir quand je voyage. Et comme ça, je vois les nuages. Je dis, mais c'est fou. Ceux qui ont inventé l'avion, c'est fou, l'avion. Et on arrive à Roissy. Et là, je vois avant d'atterrir, les terres de France. Je vois le vert. C'est une couleur qu'on voit pas à Gaza parce qu'il y a ni jardin,
c'est-à-dire
ni agriculture.
Vous voyez les champs verts.
Et je dis, mais comment ils ont fait pour découper les champs? C'est pour les touristes, pour qu'ils voient ça de l'avion, que ce soit des carrés, mais c'est magnifique.
Vous entendez votre naïveté, c'est formidable.
Et on atterrit à l'aéroport, bien sûr, on a tout raté parce qu'on arrive un jour en retard.
Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a des filles qui vous attendent à l'aéroport.
À mon collègue qui était avec moi, il connaissait 2 filles de France par Facebook. Donc il me dit à l'aéroport, tu sais, il y a 2 filles qui nous attendent. Et on sort du contrôle. Et on ne sait pas où on est et tout. Et là, on voit 2 filles qui nous voient et qui arrivent vers nous. Moi, je m'arrête pour dire bonjour. À Gaza, on ne serre pas la main aux filles. Et la première fille, elle me prend dans ses bras et elle m'embrasse. Ça m'a traumatisé pendant 3 jours.
Je me suis dit, mais
c'est le plus grand péché que j'ai commis dans ma vie. Et je dis, ça commence mal, là, déjà.
L'emprise morale religion, c'est la première fois qu'une fille vous embrassait. En plus, elle était voilée.
Oui.
Donc, normalement, une fille voilée n'embrasse pas encore moins. Si on a une qui ne doit pas embrasser, c'est bien elle.
Ah ouais, ouais.
Et là, vous rougissez.
Et là, les filles ne comprennent pas pourquoi on panique. Moi, je panique. Parce qu'on m'a touchée, on m'a embrassée. Je dis, mais mon Dieu, où est-ce que je suis là?
Bon, alors, vous allez vous retrouver dans le train pour Perpignan, grâce à ces filles qui vous paieront votre billet d'avion. Et là, ce voyage pour Perpignan, c'est le plus beau voyage de votre vie.
Oui. Parce que à Gaza, j'ai jamais vu la nature. On ne sait pas ce que c'est la nature. Là, dans le train, d'abord prendre un train, on ne sait pas ce que c'est un train. Même avant le train, quand je suis monté dans le RER, j'ai eu la peur de ma vie. Un train sous la terre qui marche, qui roule à une vitesse énorme. Je me suis dit, on va avoir un accident, on va tous mourir. Et on me disait, non, mais tu vas pas mourir. Et quand on a pris le TGV, donc je voyais les champs, je vois des collines, je vois l'eau, parce qu'on voit pas l'eau à Gaza, on voit des fleuves, des rivières,
des montagnes.
C'est des montagnes, mais j'ai jamais vu une montagne dans ma vie. Gaza, c'est tout plein, il y a que des bâtiments. C'est la première densité dans le monde, donc il y a que des bâtiments. Et on voit des champs, je vois des moutons. Ça m'a...
Vous n'aviez jamais vu
mouton. Non, comme ça, dans les champs. Oh, je dis, mais qu'est-ce que c'est beau ce pays. Mais c'est le vert, la France est un très beau pays.
Vous et étiez bouleversé.
Oh là là, mais je dis, mais c'est... Ici, on peut être que heureux à jamais. Ici, c'est... On peut pas avoir des problèmes. Quand on voit les champs, la montagne, c'est le paradis. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. C'est fou comment, entre Gaza et la France, c'est...
Là, vous prenez conscience.
Oh là là.
Chaque kilomètre, vous prenez conscience de ce qui vous
sépare. En fait, je dis, j'ai raté 20 ans de ma vie. C'est la phrase que je me suis dite quand je suis montée dans le train. J'ai vécu 20 ans sans beauté.
Et là, vous découvriez la beauté. Et en même temps, c'est terrible
de la nature,
ce que
je veux
dire, ça.
Je découvre. Et c'était au mois de juillet. Et les gens qui étaient, le train était plein parce que tout le monde partait en vacances. Et nous, on ne connaît pas les vacances. On ne connaît pas l'été à Gaza. L'été, c'est ne pas aller à l'école. Et c'est une saison que j'aime pas à Gaza parce qu'il fait très chaud. On est enfermé à la maison. Et tout le monde, donc, les gens étaient heureux dans le train. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce pays de joie? Et c'était quoi le débat dans le train? C'est, est-ce que vous préférez vivre à la campagne? Paris, c'est chiant. Et moi, je comprenais pas des gens qui disaient du mal de Paris. J'étais en colère. Ce que j'avais jamais vu Paris, c'est la ville des Lumières. Et les gens disaient, oh non, non, on est content d'aller dans le sud et tout. Et on arrive à la gare, donc il n'y a personne, parce que les familles devaient nous accueillir la veille.
La veille.
Donc on appelle les familles viennent nous chercher.
Et là, ça sera tout de cet acabit-là, c'est-à-dire que ça sera le paradis. Vous allez découvrir la vie à Perpignan et vous allez penser que c'est ça la vie en France, c'est-à-dire la fête le soir.
La plage. Repas sans cesse, les gâteaux, la glace.
La glace tous les soirs, comme ça, un luxe. Les soirées dans la musique.
La montagne.
Alpes. C'est ça.
Les frontières, l'Espagne, ça. J'étais chez une famille qui m'amenait, qui me sortait tous les soirs. On a visité toute la région. Et je me disais, mais c'est fou ce pays. Les gens passent leur temps la journée sur la plage. Le soir, ils visitaient les villages. Ils faisaient des repas. C'est la fête tout le temps.
Mais vous l'avez dit, c'était le paradis.
C'était le paradis.
Et vous avez eu un coup de foudre.
Ah là, j'ai adoré ce pays.
Voilà, avez eu un coup de foudre.
C'est fou. Je me suis dit, il y a des transports en commun, mais c'est cette idée que je peux pas admettre en tant que Palestinien, qu'on peut prendre un bus, aller à la ville, qu'on peut traverser les frontières dans le train, aller voir Barcelone, qu'on pouvait monter à la montagne. Et j'ai eu peur, bien sûr. Pour moi, j'avais peur que la voiture tombe dans les vallées et tout. Mais je découvre un autre monde.
Et pourtant, il a fallu retourner à Gaza au bout de 3 semaines. Et là, ça a été terrible, votre retour.
C'était très dur.
Pourquoi ?
Parce que, avec 3 ans très riches à Tence, où j'ai rencontré des gens qui parlaient une autre langue, j'ai vu des Espagnols, des Italiens, des Français, j'ai vu le bonheur, j'ai vu des gens heureux, chaleureux, généreux et tout. Et je retourne à Gaza avec l'idée que je vais juste avoir mon diplôme pour retourner en France et je vais raconter ce que j'ai vécu. J'ai vu des centres commerciaux, j'ai vu un métro, des trains. Et là, les gens n'étaient pas intéressés par ce que j'allais raconter.
Personne ne vous pose de questions.
Personne ne m'a posé des questions. Toujours, les questions étaient sur le foot. Est-ce que je suis allé voir des matchs sur les belles filles on m'a pas posé des questions sur les découvertes, la nature, les gens.
Et ça n'intéresse pas ou alors c'est trop douloureux d'entendre parler d'un pays où on sait qu'on n'ira jamais.
On m'a toujours dit, mais tu apprends la langue d'un pays qui n'existe pas, mais tu vas jamais, mon pauvre gars, voir la France, mais tu vas jamais parler français, mais tu vas être au chômage dans 2 ans. On m'a toujours découragé quand j'ai choisi le français.
Donc ça a été la douche froide.
Et quand je suis retourné, on m'a dit une phrase très dure, c'est que ça y est, tu as vu la France et tu retourneras jamais en France parce que c'est une fois dans la vie.
Une fois et une seule fois.
Une seule fois dans la vie.
Alors vous déprimez et puis vous organisez une vie dans une bulle.
Oui.
Vous allez à la fac, continuez vos études de français. Dès que vous avez fini vos cours, vous allez à l'Institut français jusqu'à la fermeture. Et là, vous regardez les 1200 films de l'Institut français. Mais votre préféré, c'est celui-là.
Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma.
J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs.
Au premier qui arrive au bout de la passerelle.
Puis j'aime bien repérer le petit détail que personne ne verra jamais. Par contre, j'aime pas dans les vieux films américains quand les conducteurs regardent pas la route.
Amélie n'a pas d'homme dans sa vie. Elle a bien essayé une fois ou deux, mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains. Briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère. Et faire des ricochets sur le canal Saint-Martin.
Vous souriez, hein?
J'adore cette musique.
Vous adorez cette musique de Yann Tiersen. Donc pendant plusieurs années, 2 ans à Gaza, vous allez vivre comme ça dans une bulle, qu'avec du français, en regardant TV5. Vous vivez ailleurs, sur un nuage, et vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de revenir en France.
Retourner en France.
Il pleut. Le ciel est bleu, il y a du vent, mais rien n'y paraît. C'est un moment parfait, je l'oublierai jamais. Je t'aime, c'est fou quand même, la plage est typique. Mon romantique, je l'oublierai jamais, c'est un moment parfait. Tam 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 tam, tam 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 tam, tam 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 tam, tam 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 tam, tam 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 tam. Ni souvenir, ni avenir. Un oiseau passe,
chante Montparnasse, Poulain Capolinaire, bien sûr qu'il peut le faire. Tout nu, dans l'eau, sur le dos, je vois un nuage, c'est un mirage, c'est un moment parfait, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais.
Amir Hassan, votre rêve va être exaucé en 2013 quand on vous propose de venir travailler à Paris. On vous embauche, on vous propose un CDD comme assistant de langue arabe. Et donc, vous débarquez à nouveau à Paris en 2013. Et là, c'est, vous découvrez une autre vie. Et une
oui,
autre France, non?
Une France qui va au travail le matin, qui prend le métro.
Qui fait plus la fête comme à Perpignan,
oui,
c'est ça?
En fait, je pense que à Perpignan, je pensais que l'été durait 4 saisons et que c'était les vacances tout le temps. En fait, j'ai pas vu les gens travailler. C'est pour ça que j'ai eu cette idée merveilleuse de la France.
Et donc, quand vous arrivez en 2013, vous découvrez quoi? Le métro, l'hiver?
Le travail, l'hiver,
les
démarches administratives à faire.
Alors là, on a un petit cadeau pour vous.
La sécurité sociale est un grand service public. Mais dans la pratique, comment ça marche?
Son budget est composé de dépenses, principalement sous la forme de prestations, et de recettes, alimentées en partie par les contributions.
Ainsi, quel que soit son âge et sa santé, quelle que soit sa situation professionnelle ou ses revenus, on sait que chacun d'entre nous est protégé, pour aujourd'hui et pour demain.
Ça vous a plu? Combien de temps vous avez mis pour obtenir la carte vitale?
Une année.
Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'il fallait traduire l'acte de naissance en France. Donc quand je l'ai traduit, on m'a dit non, c'est trop tard, il faut qu'il soit nouveau. Donc je l'ai refait faire à Gaza, on me l'a envoyé, il arrive 3 mois en retard. Une autre traduction, après il fallait que l'ambassade signe. J'ai passé ma vie à la poste à envoyer des papiers, à recevoir des papiers. Et je me suis dit, le jour où j'aurai la carte vitale, je ferai une fête. Et j'ai fait une grande fête. Il y avait 25 personnes.
Quand vous avez eu la carte vitale, en fait, ce que vous avez découvert, c'est notre amour de la paperasse.
Oh là là.
C'est ça, hein?
C'est fou, ça.
Alors, vous avez vu d'autres histoires comme ça avec la...
J'ai beaucoup galéré quand je suis arrivé en septembre 2013. Ah, parce que les banques ne voulaient pas que j'ouvre un compte. Parce qu'il n'y a pas la Palestine dans leur listing. La résidence où je devais habiter, il n'y avait pas la Palestine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit remplir un
formulaire.
Mais il n'y a pas la Palestine. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Donc, on m'a fait galérer. La sécurité sociale, pareil, à la fac. Donc, après, j'ai mis jordanien partout. Et un jour, que je suis arrivé à la résidence, la dame a dit « Écoutez, j'aimerais bien vous aider. Alors choisissez la nationalité que vous voulez. »
Et vous avez mis jordanien.
Et j'ai réfléchi comme ça. Je me suis dit « Bah, et qu'est-ce que les Palestiniens font ?» Elle m'a dit « Bah, ils choisissent jordanien. » Alors j'ai choisi la nationalité jordanienne pour avoir ma résidence, ma chambre. Et c'est tout, partout, c'était compliqué.
Et vous avez été déçu? Ça vous a déçu?
En fait, je ne savais pas que notre passeport n'était pas reconnu ou que nous n'avions pas un code postal. Je savais pas que je venais d'un pays à part. Hein. C'est là où je me suis rendu compte que ce que c'est l'occupation, ce que c'est de ne pas avoir un pays, de ne pas avoir un aéroport. C'est là où on se rend compte, en fait.
Et vous avez été déçu par cette France que vous découvriez? Ça a été une déception?
Je suis déçu par l'injustice qui est faite aux Palestiniens, qu'on doit tout justifier, les papiers et tout. Je suis déçu du fait que j'ai perdu beaucoup de temps pour des choses administratives. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'était dur.
Vraiment dur?
Oui.
Vous avez souffert?
Parce que moi, je revenais à Paris pour visiter Paris, pour aller dans les quartiers.
Pour être dans le monde d'Amélie Poulain, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça, ce monde, Sacré-Cœur, la Tour Eiffel. J'ai gardé toujours ces souvenirs de 2010, celui qui aime comme un touriste, qui va débarquer, qui va vivre une vie touristique à Paris.
Non.
Alors non, je vais aller au travail, je vais travailler la nuit, on donne les cours le soir, je vais pas voir le soleil. Et là, il n'y a pas de mer, et moi, je m'oriente par rapport à la mer. C'est-à-dire quand je suis dans une ville où il n'y a pas la mer, je ne connais pas les 4 directions, je me sens perdu.
Vous perdez encore dans Paris?
Jusqu'à maintenant, oui, dans des rues que je ne connais pas, je connais pas les directions, oui. Pour moi, la mer, c'est...
La mer ou son odeur aussi, que ça peut vous aider à vous... à vous orienter dans la ville.
Et la vie parisienne est très très dure. Je n'en supporte pas le métro, parce que quand je fais 2 heures du métro, à Gaza, j'ai jamais fait plus que 5 minutes de transport. Donc je découvre que ma santé n'est pas faite pour vivre à Paris. J'ai mis une année, c'était très dur à s'intégrer au niveau des efforts physiques, disons.
Eh oui, vous étiez habitué à vivre dans un espace clos et vous n'aviez jamais fait à Gaza plus de 20 minutes de voiture. Et là, vous vous retrouvez à traverser pour aller donner vos cours de langue arabe.
Oui, et je deviens stressé comme les Parisiens.
Oui, vous êtes devenu un peu parisien.
Un sentiment que je n'ai jamais connu à Gaza.
Ouais. Oui, on ne peut pas tout avoir.
Non.
Mais Amir Hassan, là, vous êtes dans une situation particulière en ce moment parce que ça fait plusieurs années. Ça fait combien d'années là que vous étiez?
Ça fait plus que 2 ans et demi.
2 ans et demi, donc vous étiez assistant en langue arabe. Hein. Et là, votre carte de séjour expire le 30 avril.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui va se passer?
J'en sais pas ce qui va se passer parce que comme j'ai été trois fois dans ce poste, je peux pas faire plus que 3 ans. Donc, je dois trouver un contrat de travail pour renouveler ma carte parce que je suis salarié. Donc, j'espère que je trouverai une solution d'ici là.
Et si vous ne trouvez pas de contrat de travail, qu'est-ce qui se passe?
J'en sais pas.
Vous n'avez plus de carte de séjour?
Je pense, oui.
Mais vous ne pouvez pas rentrer à Gaza?
Non, personne ne peut rentrer à Gaza.
Parce que les frontières sont fermées?
Sont fermées. Et moi, je suis venu pour faire ma vie ici, dans ce pays que j'aime.
Vous voulez rester en France?
Oui.
Vous étiez prof jusqu'à maintenant dans des lycées prestigieux, en plus des lycées parisiens à Henri IV.
Oui, et Voltaire aussi.
Et Voltaire. Tout le monde est très content de votre travail. Vous êtes apparemment un prof d'arabe extraordinaire.
C'est un métier que j'aime.
Vous voulez passer votre agrégation d'arabe?
Oui, tout à fait. C'est mon projet. Et il faut être français.
Pour passer l'agrégation.
Oui. Donc moi, je vais tout faire pour être français.
Et qu'est-ce qui vous manque pour être français? 2 années de travail.
2 années de plus de présence sur le territoire français.
Donc ce qu'il vous faut absolument aujourd'hui pour que votre rêve se réalise, c'est un travail.
Oui.
Un travail de prof. Vous êtes prêt à accepter tout?
Bien sûr.
Parce que ce qui compte, c'est de rester ici.
C'est d'avoir la nationalité française et d'avoir donc l'agrégation en arabe.
Et la nationalité française, pourquoi vous la voulez? Pourquoi vous voulez devenir français?
Parce que c'est un pays que j'aime tellement. Et les gens parfois me disent, mais t'aimes plus la France que les Français. Et là, je veux leur dire, non, je suis devenu français maintenant, j'ai le droit d'en parler avec cette passion. Je suis très francophile parce que c'est un pays qui m'a permis de me sentir libre, d'avoir une culture, d'aller vers l'autre, d'avoir une ouverture, d'être plus humain, d'accepter l'autre. C'est un pays de rencontres et de cultures. Et quand on a étudié la culture, la civilisation française pendant 2 ans, on est passionné. Moi, je suis passionné par cette culture.
Donc, tout ce qui vous manque, c'est un travail?
C'est une carte de séjour permanente qui me permettrait de me sentir vraiment en sécurité.
J'espère qu'on vous entendra, Amir Hassan.
Merci.
Merci en tout cas d'avoir passé cette heure avec nous. Je remercie aussi Aurélie Charron que vous avez rencontrée à Gaza. C'était D'ici d'ailleurs, une émission préparée par Alexia Lacour, à la réalisation Fanny Bouillon, à la technique Fabrice Delmas, à la progression musicale Djoubaka. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter l'émission ou la podcaster sur le site franceinter.fr et nous laisser vos commentaires. Voilà, c'est fini pour ce soir. On se retrouve vendredi prochain à 20h. Après le journal, ce sera André Manoukian avec Partons en live.